marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Vichy après Vichy.
Sur la droite, l'ancien hôtel Majestique, réquisitionné de 1940 à 1944 pour y loger les membres du gouvernement. Toujours sur votre droite, l'ancien hôtel du parc était le centre de la vie politique et le siège du gouvernement. Au deuxième étage, les bureaux du conseil. Au troisième étage, les bureaux du maréchal Pétain.
Nous sommes dans le petit train qui promène les touristes de Vichy. Les visiteurs du Vichy d'aujourd'hui sont nombreux en effet à demander à voir les traces de l'époque 1940-1944 où la ville thermale était devenue involontairement la capitale de l'État français. Dans les années qui suivirent immédiatement, les Vichysois avaient voulu effacer les stigmates. L'hôtel du Parc, par exemple, avait été rapidement vendu en appartement. Les habitants disaient alors qu'ils étaient les victimes d'un choix que les circonstances de l'été 40 avaient dicté sans leur consentement. La ville, d'ailleurs, ajoutait-il, avait vu ses activités traditionnelles quasi interrompues et elle avait compté nombre de résistants. Très vite, cependant, les commémorations se firent discrètes. Vichy, ce n'est pas une ville qui sédimente le passé. Elle est née à la renommée internationale sous Napoléon III, brusquement. Elle s'est échafaudée avant et après 1900 à la vitesse d'une cité américaine. C'est une cité de l'instantané qui attend impatiemment des curistes et des touristes qui lui apportent l'argent, les plaisirs chaque été. L'objectif dans les années 1950 est donc de retrouver le chiffre d'avant-guerre et le sel des divertissements. Vichy redevient ainsi la capitale d'été de l'Afrique du Nord française. Les difficultés mémorielles vont commencer quand celle-ci devient indépendante. Nombre de rapatriés s'installent à demeure dans la ville. La tradition locale radicale socialiste doit s'accommoder de leur position politique sur lesquelles vient se greffer un regain de la mémoire pétiniste. Et quand, dans les années 1970, les historiens commencent à réévaluer les responsabilités propres de l'État français, la municipalité va être de plus en plus embarrassée. Néanmoins, elle campe sur une position qui va devenir difficile à tenir. L'avenir d'abord, dit-elle, quant au passé pétiniste, il interroge la France entière et pas particulièrement la ville. Ce discours a été tenu jusqu'à ces derniers mois, où s'impose un nouveau cours.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Un nouveau cours auquel ne sera pas étrangère, peut-être, Audrey Mallet, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
On va faire de la micro-histoire. Il y a quoi, 25 000 habitants à peine à Vichy, 80 000 habitants dans l'agglomération. Mais micro-histoire, c'est votre histoire personnelle aussi, parce que vous êtes né là-bas.
Je suis né à Vichy, oui, milieu des années 80.
Et votre famille est toujours à Vichy?
Ma famille est toujours à Vichy.
Donc vous connaissez dans le détail tout ce que nous allons raconter par le menu. Vous le faites dans un livre, Vichy contre Vichy, extrait de votre thèse, c'est chez Belin. Et puis comme vous êtes une jeune fille moderne, accompagnée par votre sœur Élodie, vous avez lancé une application qui s'appelle...
Qui s'appelle Vichy 1939-1945.
Alors, on en parlera quand on viendra sur les lieux de la mémoire de la ville. Racontez-nous d'abord, vous êtes né quand ?
Je suis né quand ?
Oui.
Je suis né au milieu des années 80.
Oh, racontez-nous d'abord vos souvenirs des années immédiates de l'après-guerre. C'est-à-dire 45-46.
C'est-à-dire quand je n'étais pas née.
Exactement.
Oui, donc, dans l'immédiate après-guerre, on assiste à une phase mémorielle intense. Le nouveau maire, qui était un résistant, façonne un récit autour d'un double axe. D'un côté, il y a une forte volonté d'insérer la mémoire locale dans la mémoire nationale qui est en train d'être dictée par le général de Gaulle. Donc toutes les commémorations qui sont organisées suivent un schéma très gaulliste. L'aspect militaire, les maquis sont mis en avant, alors que la résistance vichysoise était plus une résistance des réseaux. Mais peu importe, ce qui importait vraiment... À l'époque, c'était de mettre le récit local...
Au diapason de la mémoire nationale à l'époque dominante.
Exactement. Donc d'un côté, on a cette volonté très nette d'appartenance à la France de Gaulle. Et d'un autre côté, on a un rejet violent de cette France de Gaulle qui stigmatise, soi-disant, les Vichysois à cause de l'utilisation de l'expression « régime de Vichy ».
Il faut dire que le général de Gaulle ne vient pas à Vichy. Enfin, son premier déplacement, ce sera beaucoup plus tard, sous la Ve République. Mais les Vichysois n'arrivent pas à l'attirer dans les mois où il est président du Conseil après la Libération.
Non, et c'est pas faute d'avoir essayé.
Dites-moi, à l'étage d'honneur de l'hôtel de ville de Vichy, il y a la statue de Monsieur Léger, Victor Léger, qui était le maire avant-guerre, qui était le maire pendant la guerre, et qui, en 1949, va redevenir le maire.
Exactement. Pierre-Victor Léger redevient maire en 1949 et c'est une nouvelle page de l'histoire locale qui s'ouvre puisque le chapitre de la guerre est complètement refermé et il met en place une politique mémorielle de silence en quelque sorte. Et tout ce qui importe, c'est de retrouver les beautés d'antan et de faire revivre le tourisme thermal.
Alors, le tourisme thermal va reprendre du poil très rapidement. Les premières saisons 45-46, c'est catastrophique. Mais l'objectif, c'est de retrouver les chiffres de fréquentation. 150 000 touristes et curistes en 1938.
Oui, entre 100 000 et 150 000 curistes et touristes. C'est difficile de faire la différence, mais... C'est ça, les chiffres d'avant-guerre, donc les chiffres de 1938 sont... Vichy les retrouve au milieu des années 50.
Et ce sont des visiteurs internationaux, vous dit-on toujours, quand vous interrogez les Vichysquois, qui vous disent les souverains d'Iran, les princes d'ici, les altesses d'ailleurs. C'est ça qui reste dans la mémoire, le côté cosmopolite.
Oui, alors ça c'était surtout vrai dans les années 30. Dans les années 50, il y a moins de souverains, de ces gens fortunés, mais les curistes internationaux continuent de venir, principalement des colonies françaises.
Ah, les colonies, cosmopolitisme, dites-vous, ça peut rimer avec vie colonialiste. Et parmi les altesses, je pense, il peut y avoir l'ancien sultan du Maroc, par exemple. Alors l'Afrique du Nord, sa fréquentation à Vichy. Vous connaissez Bedos, mais vous ne connaissez pas l'autre Bedos.
Non.
Jacques Bedos, qui dirigeait les programmes de Radio Alger jusqu'en 1961, et qui est l'auteur et l'interprète de sketchs à partie double. Coast Ensemble, Sabir et Patawette.
Les voyages de Mohamed à Vichy. J'en ai bouffé des figues, c'est plus que comme un cochon. J'y crois, j'ai son trapé, la maladie débauchant. La toubibe qui me dit comme ça... Faut que tu partes à Vichy, parce que t'y en a 4 algies, avec plus de 10 Pepsi. Ça y est, j'y sont foutu. Comme j'y sont bien parti, j'y sont bien arrivé. Beaucoup d'Algériens là-bas, j'y sont trouvés. Des gros propriétaires, des fonctionnaires mesquins. Mais tout ce qui me dit, mon vieux, bissif, tu feras régime. Tu mangeras des carottes avec des épinards. Moi, pour faire grand plaisir à Monsieur Hadjounard, sans rien dire à personne, j'y sont boire chaque matin 3-4 litres de l'eau à la source Célestin. Mais voilà, tout d'un coup, mon zambor qui gargouille, j'y viens gros, toujours blos que la citrouille. Et n'a le bouc la source Vici, Célestin, Hadjounard, n'a le bouc l'établissement Terma. L'an prochain, toujours, j'y reste là-bas le billard, j'y bien manger des figues et j'y boire des pénards.
Alors qu'on soit notable ou simple pied noir, on retrouve dans l'architecture de Vichy, dans les boutiques, dans les restaurants, quelque chose de l'Afrique du Nord.
Oui, dans le bâtiment thermal aussi, qui a une sorte d'énorme minaret. En fait, c'est parce que le Vichy a joué un rôle important dans l'Empire colonial. À la fin du 19e siècle, il y a un consensus qui s'est établi au sein de la communauté scientifique qui disait que l'eau thermale pouvait soigner les maladies coloniales. Et l'eau de Vichy était particulièrement conseillée en cas de paludisme. Donc on encourageait les coloniaux, les pieds noirs, à venir en cure tous les ans. Et de fil en aiguille, Vichy est devenue la capitale d'été de l'Afrique du Nord.
Le nouveau maire qui succède à Pierre-Victor Léger, c'est Pierre Coulon, c'est un homme de grand projet, et il s'intéresse à une meilleure liaison entre Vichy et Alger, comme il l'explique un journaliste assez inoffensif, hein, Jacques Chaban. On est en 1955, on peut supposer que Jacques Chaban séjourne gratuitement, grâce à la compagnie fermière ou à la municipalité, dans les hôtels de la ville.
Depuis l'an dernier, au point de vue municipal, qu'avez-vous fait ?
Eh bien, nous avons pensé à équiper, à compléter l'équipement de la station. C'est ainsi qu'actuellement, nous terminons de parfaire l'équipement de notre aérodrome international.
Qui était en sommeil depuis la guerre ?
Et nous avons mis en train, depuis l'année dernière, et terminé cette année, un aérodrome de l'international qui est déjà assure les liaisons quotidiennes sur l'Afrique du Nord.
Et vous m'aviez parlé l'autre jour, un soir que nous dînions ensemble, je me rappelle, d'un projet d'aménagement de l'Allier, enfin de la partie de l'Allier qui est entre le pont de Bellerive et le barrage. Ça consistera à enlever les îles?
Oui, nous supprimons ces îles, nous aménageons les rives, et je pense qu'on pourra y faire de la voile, de rivière, enfin, tous les sports nautiques.
On pourra faire même des courses de hors-bord.
Ah, c'est certain.
Parce qu'évidemment, à Vichy, étant une station thermale où on soigne les personnes qui ont mal au foie, la jeunesse n'avait pas, jusqu'à présent, beaucoup d'occasions de s'y distraire.
Certaines tendances, justement, cette jeunesse, enfin, on peut même dire, sans la fixer à l'âge propre, on sent que nous avons tous désir d'aller au sport, de libérer, de d'ouvrir le col de la chemise, de nous mettre en short.
On parlera de nouveau du souvenir de l'État français dans un instant, mais chez les Vichysois, peut-être même dans votre famille, Audrey Mallet, Pierre Coulon, c'est le visionnaire, peut-être un peu dépensier, mais enfin qui a voulu rajeunir la ville.
Alors Pierre Coulon a rajeuni la ville et l'a modernisée en développant notamment le tourisme sportif, qui va devenir par la suite quelque chose d'important pour la ville, mais c'est Coulon qui donne le point d'envoi.
Et puis vous parlez de la reprise, des divertissements. Vous faites le compte des cinémas dans ces années 53. 3 salles de spectacle et notamment le superbe opéra où tous les étés un grand festival est organisé, dirigé par Monsieur Alvizet, dont la fille a donné les enregistrements de ces soirées. Ici nous sommes en 1955, Alina.
Mesdames, messieurs, nous vous prions d'écouter un concert donné dans le cadre du 6e festival de Vichy et consacré à des extraits d'opéra. L'ensemble de chœurs est le grand orchestre du casino, placé sous la direction de Pierre Dervaux.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vichy après Vichy, c'est un exercice de micro-histoire que nous propose Audrey Mallet aux éditions Belin. Le temps des splendeurs est peut-être révolu quand interviennent la guerre d'indépendance d'Algérie, puis l'indépendance de l'Algérie. C'est un rude coup pour Vichy.
Ah bah c'est presque un coup fatal pour Vichy, en tout cas d'un point de vue...
Ce qui est fatal, c'est pas la guerre, c'est la fin de la guerre d'Algérie.
Oui, c'est la fin de l'Empire, c'est la décolonisation qui marque la fin du tourisme colonial qui était important pour Vichy, surtout dans les années 50.
Et les gens d'Afrique du Nord qui sont rapatriés se souviennent des charmes de l'été à Vichy et un nombre significatif d'entre eux s'installent, d'autant que la municipalité Coulon est peut-être plus aimable à leur égard que, je ne sais pas moi, Gaston Defer à Marseille.
Oui, exactement. La municipalité de Vichy savait ce qu'elle devait aux pieds noirs d'Algérie.
Et alors, ces rapatriés, ils vont retrouver goût à la vie et goût à la vie politique. Je ne sais pas s'ils sont exactement sur la même ligne que le maire de tendance d'héritage radical socialiste.
Pierre Coulon a changé d'orientation politique dès les années 50, donc dans les années 60, je pense qu'il est en concordance avec la majorité des pieds noirs qui se sont installés. Mais c'est vrai qu'on assiste à une sorte de droitification de la ville en réponse à la guerre d'Algérie.
C'est aussi dans les années 1960 que la mémoire du maréchal Pétain, qui était présente mais discrète, prend de nouvelles couleurs.
Oui, dans les années 60, il y a des événements qui ont lieu, qui n'auraient jamais pu avoir lieu dans l'immédiate après-guerre. Par exemple, en 1966, au Centre culturel Valéry Larbeau, il y a deux conférences qui sont organisées avec Jacques Izorni, qui était l'avocat de Pétain, et André Brissot, qui était écrivain et journaliste dans les années 50 et 60 et qui était un fervent partisan de la Révolution nationale. Et ces événements sont organisés sans aucun tabou et à chaque fois, ces salles comblent.
Enfin, la municipalité Coulon n'est pas non plus vraiment approbatrice. Et si Robert Forisson, avant d'être connu, s'installe à Vichy, le maire Coulon a assez vite une altercation avec lui.
Oui, le maire Coulon n'est pas d'extrême droite, il n'est pas non plus pétainiste et il ne veut pas entretenir cette mémoire. Mais elle existe.
Elle existe, d'autant que l'association pour la défense du maréchal Pétain va racheter un étage de l'hôtel du parc, celui où étaient les bureaux du maréchal. Alors, les lieux. Parlons justement de l'hôtel du parc. Le petit train touristique d'aujourd'hui, il transporte les visiteurs, et puis il y a toujours des journalistes mal intentionnés. On va entendre David Hacoun pour France Culture, en l'an 2000, qui veulent interroger les copropriétaires.
Sur la 3, l'ancien hôtel Majestic, réquisitionné de 1940 à 1944 pour y loger les membres du gouvernement. Toujours sur votre droite, l'ancien hôtel du parc était le centre de la vie politique et le siège du gouvernement. Au deuxième étage, les bureaux du conseil. Au troisième étage, les bureaux du maréchal Pétain.
Les gens qui habitent l'immeuble, ça ne les gêne pas du tout. Ce qui les gêne, surtout, c'est quand on leur parle. Quand on leur en parle. Mais ça énerve tout le monde à Vichy. Hein. Ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on leur parle du passé, on veut oublier. On veut oublier. Le maire lui-même veut oublier. Il le dit d'ailleurs qu'il entend parler de Vichy, mais il n'aime pas le gouvernement de Vichy, et il n'aime pas le terme vichiste. Il dit vichysois. Il a raison.
Mais vous êtes plus ou moins d'accord ici, les copropriétaires, pour essayer de mettre un peu à l'ombre ce passé.
Ah ben oui, mais nous, nous sommes ici dans un immeuble d'habitation. Nous nous comportons comme des gens qui habitent un immeuble, comme un immeuble normal, ancien, dont on a essayé de tirer un maximum pour le rendre habitable et agréable à vivre. C'est d'ailleurs ce qui se passe à côté aussi au Majestic. Au Majestic, c'est plus récent, puisque c'était, je vous l'expliquais, que ça faisait partie du même hôtel, et la rénovation du Majestic est très récente. Ce qui fait que tous les copropriétaires qui ont acheté sont nouveaux. Ce sont la plupart des nouveaux vichysois qui ont acheté, donc eux, alors, ils ne savent pas. Hein. Ça ne les intéresse pas. Et je connais, moi j'ai bien des amis à Vichy qui habitent dans des immeubles qui ont été des hôtels aussi. On ne parle pas. Non, ça ne gêne personne. Hein. On essaie d'oublier que Vichy a porté à un moment une tache dans l'histoire. Enfin, pour nous, ça n'a pas une importance énorme.
Donc le Majestic, c'est là que travaillait Laval et que le maréchal avait claquemuré la maréchale, qui n'avait pas le droit d'être vue dans la presse. Et le parc, c'était le lieu de travail et la résidence du maréchal. Alors, en micro-histoire, André Mallet, tout est dans le détail, si je puis employer le mot, de l'histoire. La plaque de l'hôtel du parc, racontez-nous ses heures et malheurs.
Alors il y en a deux des plaques. Il y a la plaque devant l'appartement de Pétain qui a été mise par l'association pour la défense du maréchal Pétain. Et il y a la plaque en bas de l'hôtel du parc qui a été érigée de façon plus ou moins légale dans les années 90 par Serge Klarsfeld qui demandait que la France reconnaisse la responsabilité de l'État français dans la déportation de milliers de juifs de France.
Mais si je comprends bien, il n'y a pas de plaque sur la façade ni dans le hall ? Ou il y en a
eu ? La plaque a été mise à l'intérieur du hall. Les résidents de la résidence n'ont pas vraiment apprécié que les visiteurs rentrent dans l'hôtel et puis demandent à voir la plaque. Donc elle a été mise sur la façade et finalement elle a été mise sur le trottoir.
Séparée par la rue.
séparés par la rue.
Et puis, on pourrait raconter des conflits picrocolins autour de la plaque de l'opéra qui fait mémoire du suicide de la Troisième République dans cette salle. Mais j'aimerais qu'on s'arrête à un autre endroit que vous avez cité tout à l'heure, le centre culturel de Valéry Larbaud, qui est une salle de spectacle maintenant, mais qui avait servi de lieu numéro un pour la milice. Bertrand de Solier et Paul Muxel, un couple de réalisateurs qui a vécu longtemps à Vichy, a, dans un de ses films, présenté ce beau moment avec une couturière de la ville voisine de Vichy, Cusset.
J'étais à peu près la seule couturière de Cusset, j'étais même la seule, qui allait essayer chez les autres, chez les grandes dames qui me payaient bien. Alors, j'allais donc essayer ces dames vers 11h du matin, quand elles avaient pris le pain, tout ça, pour pogner et tout. En plein jour, en plein matin, vous les écoutiez hurler, les gamins qu'on torturait. Alors, elles me disaient, mais faut pas vous frapper comme ça, Lucette. Elles me disaient, nous, on écoute ça toute la journée, toute la nuit, quand les Allemands sont partis. J'ai donc été visiter avec les gars de la Résistance. Alors j'ai vu ce qu'on leur faisait. Il y a à peu près 3 ans, un Mimi, là, la petite, qui me dit, ben écoute, si tu veux, on va aller à l'opéra, donc à Valéry Larbaud, voir un grand opéra. On rentre là-dedans, on était au rez-de-chaussée. Moi, j'étais à gauche, je me rappelle. Et elle était très contente, elle, de voir tous ces gens habillés beaux sur la scène, évidemment. Puis vous savez pas ce qui va t'arriver. On était donc assis à côté. J'ai dit, écoute, j'ai chaud là-dedans. Moi, je crains beaucoup la chaleur. J'ai dit, moi, ça me plaît pas tellement, ce truc. Et puis, je suis contrariée. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai dit, écoute, toi, tu savoures la musique, mais moi, imagine-toi que j'écoute les bruits de la cave. Elle me dit, mais t'es folle. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai visité la cave. Je lui avais même pas dit. Je vais jamais parler. On parlait pas beaucoup de tout ça, justement. J'ai visité la cave et je vais vous dire comment j'ai écouté ces pauvres gens.
Extrait de l'année dernière à Vichy. Oui, il y a beaucoup de lieux, beaucoup plus problématiques évidemment que l'opéra et même que l'hôtel du Parc. Et que le visiteur d'aujourd'hui voudrait peut-être, pour certains d'entre eux en tout cas, identifier.
Oui, parmi ces lieux problématiques, on peut citer l'hôtel du Portugal, qui était le siège de la Gestapo, et qui est maintenant des résidences, des appartements privés. Autre lieu problématique, c'est l'hôtel Algeria, qui était le commissariat général aux questions juives. Voilà, on pourrait en citer plein.
Et puis le bureau qui s'occupait des prisonniers, où François Mitterrand était un jeune bureaucrate, si les visiteurs pouvaient l'identifier clairement, il verrait que c'était à 300 mètres enfin, des lieux de pouvoir principaux. Et que quand on y était, on ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans le reste de la ville.
Oui, Vichy est une petite ville. Le quartier thermal est encore plus petit. Donc le centre du pouvoir était concentré à...
Je sens que quand vous étiez petite, vous posiez des questions sur ces lieux, vous.
Quand j'étais petite, j'en posais pas forcément, mais c'est une visite à Oradour qui a déclenché une sorte d'intérêt pour la Seconde Guerre mondiale en général et pour Vichy en particulier. Parce qu'à Oradour,
vous aviez à quel âge ?
J'avais 14 ans, je pense. À Oradour, je pouvais voir l'histoire dans les ruines et je pouvais la comprendre dans le musée. Alors qu'à Vichy, qui était ma ville, je pouvais ni la voir... Je pouvais ni voir l'histoire, ni la comprendre. Donc je me suis demandé pourquoi il y avait une différence aussi flagrante. Alors comparer Oradour et Vichy, ça n'a aucun sens. Mais ce que je voyais à l'époque, c'est que dans un endroit, je pouvais voir et comprendre l'histoire. Et chez moi, je ne pouvais pas.
Ça veut dire que Vichy n'est plus au diapason de la mémoire nationale. C'est une exception mémorielle, dites-vous.
C'est une exception mémorielle, oui, depuis les années 80. Avant ça, il y avait plein de lieux en France qui ne mémorialisaient pas la guerre, mais ça n'avait rien de choquant ou de particulier. Mais dans les années 80, on assiste à un tournant mémoriel en France et en Europe, et le devoir de mémoire prime sur le droit à l'oubli. Donc on assiste à la création de plein de lieux de mémoire, de centres de la mémoire, de musées, notamment dans d'anciens camps d'internement en France. Donc la mémoire de la guerre est partout. Elle est partout, sauf à Vichy, où le régime du même nom est né.
On pourrait peut-être le comprendre, ce silence de la part du successeur du maire Coulon, le bon docteur Lacarin. Mais le successeur du docteur Lacarin, le docteur Maluret, vous avez beaucoup de docteurs parmi vos édiles, qui arrive en 1989, ancien secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui aurait pu être sensible à toutes ces questions. Il tient mordicus pendant les 28 ans de son règne à une position de refus du passé, de déni, pourrait-on dire. Sur le mode, on n'a pas de responsabilité particulière, nous, pourquoi on est tout le temps accusé. Le voici pendant sa campagne électorale de 2001.
Les Vichysois en ont marre, en ont assez. Que la France prenne cette ville comme bouc émissaire de problèmes que l'État français, de problèmes dont l'État français est responsable et qu'il n'a pas su régler, et que les Français, dans leur ensemble, n'ont pas su régler comme les Américains ont su régler le problème du Vietnam. Vichy n'a pas à être le bouc émissaire de cette histoire. Personne à Vichy n'a demandé au maréchal Pétain de venir. La décision a été prise par l'État français, c'est-à-dire le Parlement, les députés et les sénateurs, en 1940. Et la ville de Vichy n'a pas plus collaboré qu'aucune autre ville pendant la guerre. Au contraire, surtout ce que je n'arrête pas de dire et ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est que c'est aux Français de régler cette période, aux Français de se réconcilier avec leur histoire. Ça n'est pas aux Vichysois, que l'on confond d'ailleurs souvent avec les vichistes, d'être les boucs émissaires.
Bon, mais les Français, puis au-delà, les gens du monde entier, il y aura beau faire, ils disent régime de Vichy. Et en même temps, il faut insister là-dessus, Monsieur Maluret n'aime pas le passé, il n'aime pas non plus les collections du patrimoine musical de l'opéra qui ne peuvent se développer que en dépit de ces refus. Il est tout tendu vers l'avenir. C'est une ville d'avenir, votre ville, Audrey Mallet.
Oui, bah, c'est une ville d'avenir.
Vous explique-t-il. C'est-à-dire que lui, il a une politique d'avenir.
Oui, après, je ne sais pas si on peut reprocher à un maire d'avoir une politique d'avenir.
Qu'est-ce que c'est pour lui, la politique d'avenir ?
C'est le tourisme de bien-être, c'est le tourisme sportif que Coulon avait commencé de développer. Donc voilà, il veut développer la ville et il regarde que vers l'avenir. Seulement, des fois, il faut regarder vers le passé pour voir un peu plus loin dans l'avenir.
Surtout quand on veut faire venir une clientèle d'élite, entre guillemets, dont on peut se dire que peut-être, moins mal informée que la moyenne, elle va poser des questions gênantes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a essayé de mettre en avant, dans ces années 80, une mémoire plus fédératrice, celle de Napoléon III. Il y a un culte de Napoléon III très visible à Vichy.
Oui, c'est un petit peu le père fondateur de la ville. Donc, c'est plus facile de mettre en avant quelqu'un qui a modernisé et qui a construit, en quelque sorte, la ville. Donc, on utilise Napoléon pour faire l'ombre à Pétain.
Une fois l'an, les Vichysois sont invités à s'habiller en style Napoléon III et en crinoline. Mais, cours nouveau de l'allié. Le CIERV vient d'être créé, c'est un comité international qui organise des rencontres universitaires sur la Deuxième Guerre mondiale et la ville à cette époque. Une exposition prépare aussi la candidature de Vichy, au même titre qu'une petite douzaine de cités thermales de Mitteleuropa au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sera au mois de juillet. L'application que Audrey Mallet a réalisé à partir de son livre qui permet une visite géolocalisée de la ville, y sera présenté. Et dernière nouvelle, un livre très singulier d'un professeur du lycée qui a exercé à Vichy pendant une trentaine d'années, Robert Liris. Il s'interroge, c'est chez Sidney Laurent, sur la damnation mémorielle de cette ville qui fut un moment capitale, dit-il, d'une zone préoccupée. Merci à vous, Audrey Mallet, qui publiait aux éditions Belin. Merci à Franck Olivard qui a préparé cette émission, à Audrey Ripouille à la réalisation, Pierre-Yves de Rolin à la technique.